Eh bien, bonjour. Nous allons pouvoir commencer nos savants travaux. Et d'abord, merci à tous d'avoir prévu d'être là aujourd'hui. Il y a toujours des quantités d'autres choses à faire. Et on est toujours flattés de faire l'objet d'une attention. Et je vais donc vous présenter notre table ronde. Madame Émilie Hels, qui a bien voulu collaborer à ce numéro spécial Proust de la Revue des Deux Mondes, en s'intéressant à un angle très particulier dont elle nous parlera tout à l'heure, en liaison avec, au fond, une revue un peu alter ego de la Revue des Deux Mondes, qui est le New Yorker et la présence de Proust dans le New Yorker. Alexandre Marre, qui dans la vie normale est commissaire d'exposition et travaille particulièrement en ce moment sur la Villa Noailles, et qui par ailleurs alors juste une part, j'oubliais de dire quand même que vous enseignez la littérature britannique à l'université de Nanterre, hein, ce qui est quand même une chose importante. Il n'y a pas que la Revue des Deux Mondes dans votre vie. Et Alexandre est donc un ami de la revue, un collaborateur, et il s'est intéressé dans ce numéro à, là aussi, un aspect tout à fait méconnu concernant le travail, le rôle que Man Ray, le photographe, enfin, l'artiste et entre autres photographe Man Ray, a eu avec Marcel Proust. Donc il y a une présence de Proust aujourd'hui qui ne serait pas la même si Man Ray n'avait pas été là à un moment très particulier dont Alexandre nous parlera dans un instant. Je voudrais simplement en quelques mots résumer quel a été l'enjeu de ce numéro dont je me plais à dire, je ne le dis pas toujours, mais là c'est très agréable de le dire parce que c'est vrai. Je ne crois pas qu'il existe dans l'immense bibliographie proustienne l'équivalent de ce numéro. Et qu'il existe beaucoup d'études, d'articles ou simplement de travaux d'approche sur cette espèce d'oxymore un peu étrange qu'est Proust et l'Amérique. Alors il faut dire que le centenaire de l'apparition de Du côté de chez Swann, qui a été perçu outre-Atlantique à la faveur d'une exposition qui est encore en cours, je crois, où on voit de se terminer à la Morgan Library à New York, qui présentait les manuscrits de Proust. Ce sont les Américains qui sont venus nous voir d'une certaine manière et au travers des institutions culturelles françaises là-bas, à Washington et à New York, cette proposition de travailler sur ce thème, encore une fois, très très peu arpenté. Et c'était un plaisir non des moindres de tout à coup de découvrir qu'il y a encore des terra incognita concernant l'œuvre proustienne. Mais Proust, nous en parlions tout à l'heure. Proust fait partie de ces auteurs qui sont inépuisables et il n'y a pas de moment que l'on rouvre l'un ou l'autre des volumes de la recherche que l'on y trouve quelque chose qu'on n'y avait encore jamais vu. Il y a toujours quelque chose d'inépuisable à la lecture de Proust. Donc cette question de l'Amérique est très passionnante en définitive parce qu'on s'aperçoit, et le numéro le montre très bien au travers des différents articles qui le composent. Le numéro montre très bien que le public américain a réagi très très vite à l'apparition de, à l'apparition et à la parution de Proust. Henry James, Edith Wharton ont immédiatement était sensible évidemment à l'importance de cette œuvre. Les traductions, le travail de traduction s'est mis en route assez rapidement pour. Vous nous direz un peu plus précisément, mais on peut dire qu'au début des années 30, les choses sont déjà très, très en train, ce qui est quand même tout à fait spectaculaire et en tout cas montre. À l'évidence que le lecteur américain a été sensible. Alors, de quelle façon le public américain a-t-il été sensible ? Une formule parmi d'autres possibles le résume, l'indique assez bien. On pourrait dire que pour les Américains, et d'ailleurs c'est une des personnes interviewées dans le numéro, nous avons eu la chance d'interroger un juge nommé à la Cour suprême par Bill Clinton il y a quelques années, qui est un fervent lecteur de Proust, qui connaît admirablement bien. Et je crois que c'est lui, ou quelqu'un d'autre, mais peu importe, dit Proust, c'est le Shakespeare de la vie intérieure. C'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle donne une indication et on peut en profiter, on peut en faire son miel. Quand on sait à quel point Shakespeare est un interlocuteur incontournable, un interlocuteur, j'allais dire, moteur, enfin, la littérature anglo-saxonne ne cesse de s'expliquer avec Shakespeare. Donc, Shakespeare n'est pas du tout un auteur parmi d'autres, il est même plus que peut l'être pour nous Montaigne ou Rousseau, ou en tout cas, enfin, on est là dans quelque chose d'extrêmement important, de vital et de constitutif pour la littérature aussi bien anglaise qu'américaine. Shakespeare est un interlocuteur. Et donc, si Proust est considéré en Amérique comme une sorte de Shakespeare, cela veut dire que nous sommes dans une perception très, 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 sur l'échelle de Richter, extrêmement importante. On n'est pas du tout dans une superficialité, au contraire. Il y a là quelque chose de très, très fort et donc c'est un peu ce que ce numéro a voulu chercher à sonder, à comprendre en interrogeant des lecteurs de plusieurs générations. Il y a de jeunes écrivains encore jeunes comme Daniel Mendelsohn par exemple, mais nous avons eu aussi nous nous sommes donné ce plaisir de traduire un texte du merveilleux et regretté John Updike qui n'était pas traduit en français, qui figure dans un recueil d'essais, d'études, un texte admirable d'Updike qui raconte ce qu'a été pour lui la première lecture de Proust. Voilà, donc on a voulu concevoir ce numéro en relation très, très étroite avec notre amie d'outre-Atlantique, Johanna Kohler, qui se serait très volontiers joint à nous s'il n'y avait pas l'océan entre nous. Et voilà, bon. Mais peu importe. Et je propose de commencer la discussion sans plus tarder et peut-être vous demander, Émilie, quel a été votre. Sans en venir tout de suite peut-être à l'objet de votre article, mais de nous dire un petit peu comment vous êtes venu à Proust et ce que Proust représente dans votre travail, dans votre vie de lectrice d'abord et dans votre travail universitaire, et puis nous dire un peu ce qu'il en est de votre article.
Bon, d'accord. Merci encore à tous d'être venus écouter, et j'espère vous entretenir avec nous de cet auteur qui nous passionne. Et moi, depuis que je suis étudiante, j'ai eu la chance d'être à l'université de Cambridge où j'avais un professeur qui s'est spécialisé dans les manuscrits de Proust, donc qui venaient à la Bibliothèque nationale, campusés, les avant-textes de Proust, comme on les appelle. Et j'étais fascinée par ce travail de la genèse du texte. Et donc, j'ai suivi un peu ses traces. Je suis venue à Paris pour travailler sur les brouillons, essayer de déchiffrer cette écriture pratiquement illisible. Et pour moi, c'était un défi. Donc, je suis restée à Paris pour vraiment comprendre ce texte et cette écriture dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce que Proust m'a apporté? Mais tout. Parce que je suis tombée amoureuse de la France, de la culture française, incarnée par Proust et son œuvre. Et donc, j'ai voulu rester en France. Et pour ce faire, je me suis penchée sur les auteurs victorien que Proust a lu. C'était d'ailleurs le premier traducteur français de John Ruskin. Et je suis partie de là, de toute l'esthétique de John Ruskin et de la pensée victorienne. Et j'ai lu, après Proust, j'ai lu les grands victoriens que lui-même avait lus. Je peux citer George Eliot, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson. Et on n'est pas sûr qu'il l'ait lu, mais il y a également l'œuvre de Oscar Wilde qui, évidemment, est en réponse à celle de Proust. Et voilà. Donc, c'est maintenant mon sujet de recherche est plutôt la littérature victorienne, mais je peux vous avouer que je n'arrive pas à ne pas lire et à ne pas travailler sur Proust. Et donc, j'étais extrêmement heureuse de participer à ce numéro.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Une fois qu'on a mis son nez, si j'ose dire, dans Proust, on ne peut plus ressortir.
Voilà.
C'est absolument impossible, c'est diabolique. Et on ne connaît pas d'être humain qui, ayant une fois été en contact avec lui, ait pu se sortir de cette affaire. Donc,
ouais.
Alors, j'ai déjà des questions en tête à vous poser, mais je propose de demander à Alexandre de nous dire. Je me souviens très bien lorsque nous avons commencé à concevoir, à réfléchir à ce numéro, comme souvent c'est le cas, nous avions des conversations un peu impromptues, et j'étais tout à fait désireux qu'Alexandre, qui connaît très bien l'art contemporain, qui a été le concepteur tout récent d'un dictionnaire du dadaïsme aux éditions Bartilla, nous dise. Et donc oui, quand nous avons parlé de ce projet de numéro, j'étais désireux qu'Alexandre s'en mêle, et il a eu cette idée dont il va nous parler d'enquêter d'une certaine façon sur le rôle joué par Man Ray dans la vie entre guillemets de Proust. Je mets des guillemets pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite.
Oui, alors effectivement tu parlais tout à l'heure d'oxymore. Et s'il y a une vraie oxymore extrêmement étrange pour Proust, c'est la rencontre entre l'écriture de Proust et l'écriture dadaïste, puisque c'est non pas durant la vie de Proust, mais sur son lit de mort, que se rencontre l'avant-garde dadaïste et, en somme, l'avant-garde proustienne. Et cet oxymore-là est pour moi absolument saisissant parce qu'elle permet bien faire le lien entre une société finissante et une avant-garde qui se crée, une dynamique intellectuelle et artistique qui est en train de se passer, non pas sous les yeux de Proust, mais quasiment. Et l'idée, c'était effectivement de pointer du doigt cela, et au-delà de l'anecdote, la manière dont Man Ray rencontre Proust, en quelque sorte, l'histoire est absolument invraisemblable, puisque lorsque Proust décède la veille, il demande à Céleste Albaret, qui est sa bonne, formidable, qui a écrit un livre que pour moi, je ne passe pas une année sans plonger dedans et relire quelques
pages. On peut rappeler le titre exact?
Oui, c'est Monsieur Proust.
Monsieur Proust.
Monsieur Proust, donc, qui sont les souvenirs de Céleste Albaret, qui est la bonne des dernières années de Marcel Proust. Et Marcel appelle Céleste, c'est vraisemblablement la fin, pour corriger pour la troisième fois, me semble-t-il, les papioles pour l'édition, pardon, je pense que c'est sur les épreuves d'ailleurs, de la mort de Bergotte, de l'écrivain Bergotte. Donc c'est fascinant puisqu'on a Proust qui va mourir dans quelques heures et qui, malgré tout, prend quand même une dernière part d'énergie pour décrire l'agonie de l'écrivain Bergotte au musée du Jeu de Paume, sur la banquette, en face d'un tableau merveilleux qui est la vue de Delft, de Vermeer, avec le fameux petit pan de mur jaune. Et Bergotte, après avoir revu ce tableau comme Proust, est allé revoir lui aussi ce tableau, agonise sur la banquette du musée. Et chose curieuse, Proust, pour décrire cette scène, et notamment le tableau, est allé voir ce même tableau quelques mois auparavant avec un ami, Jean-Louis Verdurin. Comment s'appelle-t-il ?
Vaudoyer.
Vaudoyer.
Jean-Louis Vaudoyer.
Il est allé voir ce tableau, et à la sortie du musée du Jeu de Paume, une photo est prise par Vaudoyer, et c'est cette photo qui passe pour la dernière photo de Proust vivant, où on voit Proust un peu raide, comme ça, le buste légèrement en arrière, et il pose, en quelque sorte, pour la postérité. C'est la dernière image de Proust vivant. Bref, Proust agonise, Céleste prend en note les derniers moments de Bergotte, ce fin de la nuit, et au milieu d'après-midi, Proust décède. 1922, c'est encore la grande tradition du dernier portrait, pour reprendre le titre d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années au musée d'Orsay. Le dernier portrait, donc on fait appel généralement à un photographe, mais ce ne sera pas le cas pour Proust, en tout cas pas dans un premier temps. On fait appel à deux artistes, le premier très classique, est le peintre Helleux, qui est le peintre de la vie mondaine en somme, une sorte de Jacques-Émile Blanche moins vigoureux, qui est un ami de Proust, donc qui vient tout de suite graver, me semble-t-il, trois cuivres qui seront tirés, chacun à un exemplaire, et les cuivres vont être rayés pour ne pas être bien évidemment réutilisés. Suit quelques heures après le envoyé par la NRF Dunoyer de Ségonzac, qui est lui aussi un peintre relativement mondain, si ce n'est pour la petite anecdote que Dunoyer de Ségonzac est à l'origine de la peinture de camouflage, et puisqu'il est peintre aux armées, et c'est lui qui, avec André Marre et Jean-Louis Forain, va inventer la section camouflage, qui va en fait inventer le motif de camouflage. Donc c'est assez drôle en fait, puisque la section camouflage est directement inspirée de la peinture cubiste. Donc on a quand même un petit raccourci qui ferait du cubisme Dunoyer de Ségonzac Proust, relativement intéressant à suivre, je dirais. Il y a encore, à mon avis, des choses à faire là-dessus. Bref, Dunoyer de Ségonzac fait une espèce de l'avis, pas très réussi, c'est parce qu'il a fait de mieux, mais voilà. Et enfin, le lendemain, puisque, par exemple tout à l'heure, Cocteau va veiller le corps de Marcel Proust dans la nuit avec Reynaldo Hahn, me semble-t-il, très tôt le matin, nous sommes au mois de novembre, donc il fait un froid de canard bien évidemment à Paris, Cocteau va à l'autre bout de Paris chercher Man Ray. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisque Man Ray n'est pas dépêché par la famille, il est dépêché par Cocteau. Donc c'est pas une volonté de la famille, ce qui est relativement étrange, puisque en 1922, généralement, on ne fait plus appel à des artistes, je dirais à des peintres pour ces derniers portraits, mais à des photographes, et là, personne n'avait pensé à un photographe. Bref. Donc on appelle Man Ray, très tôt, Cocteau va le réveiller à la porte de son hôtel en disant « Viens vite, prends ton matériel photographique, Proust est mort, tu vas faire une photo. » Man Ray, il vient de Philadelphie, il est arrivé un an auparavant en France. Pourquoi il est arrivé en France ? Parce qu'il a rencontré quelques agitateurs parisiens exilés à New York, à savoir Marcel Duchamp, qui avait fait scandale à l'Armory Show quelques temps auparavant, et Francis Picabia. Man Ray s'ennuie finalement terriblement à New York, et il décide en 1921 de venir à Paris voir un peu ce qui se passe, puisqu'a priori, il s'y passe quelque chose d'intéressant. Et pour cause, puisque c'est là où Tristan Tzara et le mouvement Dada a posé ses valises et essaye de créer une agitation, l'agitation Dada qui va prendre tout son sens à Paris. Bref, Man Ray est là, et ça fait un an qu'il est à Paris, il ne connaît pas grand-chose. A priori, Proust ne connaît pas. Donc il emmène son appareil, son matériel photographique, et il va faire, a priori, deux photos, peut-être une troisième. Et ces photos sont extrêmement étonnantes, puisque l'image qu'on a de Proust, généralement, est celle qui est, pour la peinture, le portrait de Jacques-Émile Blanche, pour les photographes, le portrait de Otto, qui est un célèbre photographe mondain, en quelque sorte le Nadar de l'époque, et qui monte Proust... C'est le assis, les jambes un petit peu allongées. C'est la photo qu'on voit tous, on voit d'ailleurs sur l'image que vous m'avez montrée tout à l'heure, qui est en somme l'image qu'on garde tous, qu'on a tous en tête de Proust. C'est l'image iconique de Proust. Or, Man Ray va nous montrer une autre image de Proust. Il va nous montrer un Proust qui ne ressemble pas à Proust. Je crois que c'est Cocteau qui dit un profil de visire. C'est-à-dire, Proust est sur son lit de mort, c'est un cadre relativement serré autour de la tête et de l'oreiller de Marcel Proust, de profil, extrêmement cerné. On voit le teint un peu blafard, et pour cause, Marcel Proust ne se nourrit depuis de nombreux mois de café au lait, ce qui donne un teint marron, un petit peu brun, et surtout une énorme barbe. Une énorme barbe qui va, évidemment, à l'encontre de la moustache qu'on connaît de Marcel Proust. Cette énorme barbe, et en fait, c'est assez drôle, parce qu'on s'aperçoit que cet homme qui est représenté là, en somme, ne ressemble pas au Marcel Proust qu'on connaît. Et généralement, lorsqu'il y a des biographies de Marcel Proust, des ouvrages, on montre très peu cette photographie. Parce que justement, elle ne correspond pas à l'image qu'on se fait de Proust. Et c'est très curieux. Alors, je me suis aperçu, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir le très peu nombre d'exemplaires de cette photographie, puisqu'à l'origine, il n'y a eu que 3. Man Ray a refait quelques tirages, mais vraiment de façon très, très limitée. C'est ce même profil de Marcel Proust avec son énorme barbe. Et il existe. Alors, on est un petit peu sur la piste. Mais on peut la trouver, d'ailleurs, on peut la trouver sur Internet. Une photo très étrange de Marcel Proust sur son lit de mort, mais vue, une vue beaucoup plus large, où on voit l'environnement un petit peu, et notamment, et c'est absolument saisissant, ce qui semble être une branche d'aubépine le long du corps de Proust, posée sur son torse. Et c'est fascinant, parce que qui connaît, qui a... plonger ne serait-ce qu'un tout petit peu dans l'œuvre de Proust, c'est l'importance qu'a la baie d'aubépine, en tout cas la fleur d'aubépine. Et curieusement, cette photographie va disparaître. Sans doute parce que Man Ray, je pense que c'est de son propre chef, trouve qu'elle est trop bavarde, qu'elle ne colle pas à son sujet, en somme, qui est le visage de Marcel Proust, avec son énorme barbe. Mais surtout, que dit ce visage, que dit cette énorme barbe, ce visage. Et Claudel, d'ailleurs, le dira bien plus tard, je crois que c'est en 48 dans son journal. L'œuvre a dévoré son créateur, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Man Ray cadre sur le visage, c'est qu'on voit, en fait, le travail, non pas du temps, mais en tout cas du travail sur le visage de Marcel Proust, sur ce teint blafard, l'homme qui s'est tué en somme à la tâche, ne faisant qu'écrire. Et la vue beaucoup plus large qui aurait été faite par Man Ray, somme toute bien trop bavarde pour Man Ray, qui vraiment, dans tout son travail, d'ailleurs, le montrera, se débarrasse en somme de la littérature.
Juste un point de, concernant la branche d'aubépine qui aurait été déposée sur le corps de Proust. Je crois que parmi les visiteurs qui ont été admis à entrer dans la chambre où reposait Proust, il y a le chanoine Munier. Et je me demande, c'est tout à fait une hypothèse, mais enfin qui d'ailleurs n'a pas une importance démesurée, mais je me demande si ce n'est pas lui. Parce qu'il était très Munier, était très très aubépine. Mmh. Et donc on pourrait c'est penser possible. Que c'est lui qui a. Mais ceci est un, justement un, n'aurait pas plu à Man Ray. Ce n'est pas l'objet.
Non, ce n'est pas l'objet.
Ce n'est pas l'objet, absolument.
Est-ce que je peux aussi, à propos de l'obéine...
Non seulement vous pouvez, mais...
En fait, ce qui est, par rapport à ce que vous avez dit, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'aurait pas pu déposer cette branche d'obépine du vivant de Proust. Mmh, on interdisait l'entrée dans sa chambre de tout ce qui pouvait provoquer son asthme. Donc, c'était vraiment dire qu'il était mort que de mettre cette branche d'obépine. Et votre histoire est intrigante aussi parce qu'il y a eu un grand froid dans l'amitié Cocteau et Proust. Et je pense que la réconciliation n'a pas vraiment eu lieu. Donc c'est fascinant que ce soit Cocteau qui est allé chercher Man Ray pour la photo sur le lit de mort.
Cocteau aime bien s'approprier les mythes.
Exact. les créer. Et donc là, il pouvait. Mais il y a eu vraiment un grand froid entre les deux.
À vous un peu, Émilie, de nous dire, vous vous êtes intéressée, on reste encore là dans l'image. Hein,
oui, oui.
Vous vous êtes intéressée à la manière dont le New Yorker, notamment, a imagé Proust.
Oui, oui.
Quel lien vous faites entre ce que vous avez... étudier et ce que vient de dire Alexandre, par exemple.
Ce que j'ai étudié par rapport à The New Yorker ou ce
oui,
que j'ai étudié plus
oui,
généralement.
Par rapport à The New Yorker. Ah. Quelle idée on a de Proust? Quel Proust a été mis en scène?
Dans The New Yorker, c'est un Proust qui est totalement différent,
qui
est totalement différent, qui est mis en scène. Je suis toujours très frappée par la fréquence de la publication de caricatures et en Proust pour sujet qu'on trouve dans The New Yorker. C'est une référence récurrente et ça m'a fascinée. Pourquoi cet engouement pour Proust? Pourquoi est-ce qu'il revient comme sujet de...
Pourquoi c'est un bon client?
Voilà. Et en fait, je pense tout simplement, c'est parce que les Américains, les lecteurs du New Yorker, ce n'est pas les Américains, les lecteurs du New Yorker, c'est-à-dire les gens qui veulent avoir la culture française, dire qu'ils sont tournés vers l'Europe et
qui veulent en être.
Voilà, exactement, qui veulent en être, exactement la phrase, sans les ambiguïtés. Doivent lire Proust et ils ont un peu de mal à le lire parce que c'est tellement long et donc ça devient un sujet de caricature, d'humour. Mmh.
Oui. Sur l'intervention de Man Ray, est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que finalement ce souhait de Man Ray, on voit bien, Alexandre a très bien dit... Le souhait de cadrer et de laisser de côté le bavardage, le mythe, comme s'il fallait... Est-ce que ça vous paraît un geste, pour faire, je dis ça pour faire lien un peu avec le thème du numéro, un geste spécifiquement américain ou pas? Enfin, on serait tenté, pour aller jusqu'au bout de mon idée, si c'est une idée... j'en suis pas sûr. Au fond, on retrouve autour du corps de Proust mort une confrontation qu'on observe souvent avec les écrivains qui ont été les premiers à bénéficier de la photo. On peut penser à Baudelaire, on peut penser à ceux qui ont été photographiés par Nadar ou par... Et on voit bien la bagarre qui a lieu entre une perception mythologique je m'y suis intéressé aussi concernant Chateaubriand, sur qui malheureusement il n'y a pas de photo. Mais ça m'intéresse beaucoup d'imaginer quel aurait été le Maneret de Chateaubriand, ou en quoi les photographes de Baudelaire ont joué un rôle équivalent à celui de Maneret, en cherchant une voie d'accès qui sort du romantisme, au fond. On retrouve un peu toujours cet enjeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette élucubration?
Oui. C'est-à-dire que les caricatures créent le mythe. Enfin, le mythe est facilement dit que Proust égale la petite Madeleine. C'est vraiment le mythe que c'est aussi banal que ça. Par contre, par rapport à ces caricatures dans The New Yorker, je pourrais créer un lien avec le travail de Proust lui-même. Parce que ce qu'on découvre quand on a le privilège de consulter ses cahiers de Bruyant et de vraiment voir son œuvre à l'œuvre, c'est qu'il dessinait beaucoup. Il faisait beaucoup de petits croquis, de caricatures, très humoristiques, qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un très beau livre de Philippe Solers.
L'œil de Proust.
Voilà. Et donc, retrouver ce trait de plume de l'autre côté de l'Atlantique qui, en fait, retourne l'esprit d'humour contre lui-même, ça, je trouve intéressant.
Si. Alexandre, tu veux réagir? Non, mais tu n'es pas. Il n'y a aucune obligation. Mais. Je reviens sur ce que vous disiez alors tout à fait au début, quand vous avez parlé de, on va s'éloigner un petit peu de cette question de l'image, mais juste une parenthèse quand même, pour faire aussi un lien entre Maneret et les caricatures de New Yorker. Effectivement, il n'y a aucun rapport, mais je pense à l'un des dessins qu'on a reproduit dans le numéro, où on voit, alors Proust est couché, il est au lit, évidemment, et puis il y a Céleste qui passe la tête et qui dit il n'y a plus de tisane. Est-ce que vous prendriez un verre de je sais plus quoi, de prune, etc. Et ce qui est aussi une façon d'ironiser un peu sur le mythe.
Complètement, oui.
Et donc là, cette récurrence que vous observiez dans le New Yorker, a constaté, en effet, c'est un phénomène curieux, que Proust est un bon client et que c'est un peu une mine à imaginer des scènes ou des stratégies d'ironie et autres. Proust est un bon. Mais je reviens plus en amont sur votre propos de tout à l'heure. Parmi les lectures, donc vous avez dit que vous, en fait, vous étiez en train de travailler, c'est votre travail actuel, vous lisez ce que lisait Proust, d'une certaine manière. Et vous avez cité évidemment des noms qu'on attend, George Eliot, Thomas Hardy, Ruskin, naturellement. Et puis vous avez parlé d'Oscar Wilde, ce qui est plus surprenant. Est-ce que Wilde quelles sont les traces d'une fréquentation de Wilde par Proust exactement?
Alors ils se sont rencontrés.
Ils
se sont rencontrés. Absolument.
Et à Paris, oui, bien
à Paris,
sûr.
À Paris, le salon de Madame Armande Caillavé, je pense, dans ce salon, je pense que c'était ça.
C'était la compagne d'Anatole France, non?
Oui, c'est ça.
Et Proust a invité Wilde chez lui. Et donc Wilde est arrivé à l'heure ou même un peu en avance, et il était reçu par les parents. Il attendait que Proust revienne, et Wilde s'est impatienté, donc il s'est retiré dans les toilettes, il s'est enfermé dans les toilettes en attendant Proust. Et lorsque c'est une scène de comédie de Wilde, c'est vraiment on se croirait au théâtre, mais Wilde il aimait bien aussi créer des scènes de comédie. Et lorsque Wilde est revenu, lorsque Proust est revenu dans l'appartement de ses parents, parce qu'il vivait encore chez ses parents, on connaît bien l'histoire, Wilde est sorti des toilettes et en disant « que c'est laid chez vous » et il est parti. Phrase que d'ailleurs Charlus prononce aussi.
Ah, donc, oui. Est-ce que vous vous souvenez dans quel...
De côté de Guermantes, je pense. Charles dit aussi que c'est les chiffres. C'est les chiffres. Bon, la source de la phrase chez Proust est peut-être apocryphe, et cette anecdote, à mon avis, Wilde l'a créée comme Cocteau aimait bien créer les mythes, mais bon, c'est... Et voilà, nous avons cette trace.
Oui. Et concernant les autres, est-ce que on peut établir une sorte de, sinon d'hiérarchie, ou disons d'ordre de grandeur dans les différents auteurs que Proust a lus et ceux pour qui on, manifestement il y a vraiment un lien étroit.
Donc, ordre de grandeur
d'importance
par rapport à ce qu'il a lu ou par rapport à l'influence que l'auteur a eu sur lui.
Alors, bonne question, oui, vous avoue.
Par exemple, je ne peux vous donner la preuve de la lecture d'une seule phrase de Wilde de la part de Proust. Donc, ça, je peux vous prouver qu'il a lu une phrase de Wilde. Okay. Par contre,
que c'est laid chez
vous. C'est de son essai Les Intentions, et il l'a lu en traduction française. Et je pense en fait que c'est une lecture de deuxième main qu'il a lu dans un article, parce qu'il ne parle pas davantage. Par contre, qu'il ait lu tous les romans, enfin toute la longueur de certains romans de Thomas Hardy, ça c'est sûr.
En anglais.
Non, il lisait en français.
Il
ne lisait pas l'anglais. Oui, il faut peut-être préciser, parce que j'ai dit qu'il était le premier traducteur de Ruskin, en fait, il traduisait aussi de seconde main, à savoir que sa mère et son amie Marie Nordlinger, voilà, faisaient un premier jet de traduction, et Proust faisait le travail stylistique. Il mettait en forme après. Il ne parlait pas l'anglais, il disait qu'il pouvait lire Ruskin, et je pense qu'il réussissait à lire le texte, mais non, il ne lisait pas les textes en version originale du tout. Donc les romans de Thomas Hardy, mais par ordre de grandeur, je dirais vraiment l'auteur qu'il a à part Ruskin, qui lui a donné vraiment une esthétique, vraiment. Ce serait George Eliot, je pense qu'il a vraiment, l'auteur, il a même dit, deux pages de George Eliot me font pleurer. Pour lui, c'était une lecture extrêmement forte. Toute la réminiscence de l'enfance à la campagne, tout le travail, vous parliez de la psychologie de l'intérieur, tout le travail aussi sur les émotions, les rapports humains.
L'allusion à Shakespeare, là, vous paraît... bien fondé.
Complètement. Oui. Shakespeare, il connaissait, mais il n'avait pas fait la lecture en profondeur.
Et Shakespeare n'est pas véritablement présent dans la recherche.
Non.
Son nom n'apparaît pas.
Il y a des citations de Shakespeare, et comme vous m'avez aidé tout à l'heure en me disant que les New-Yorkais qui voulaient en être lisaient le New Yorker, il y en a une que je trouve absolument savoureuse lorsque Proust réécrit la plus célèbre citation de Shakespeare. Il s'agit de faire partie du clan des Verdurins, et la question c'est, est-ce qu'on en est ou on n'en est pas? La question, en être ou ne pas en être. Il réécrit cette citation de Shakespeare.
Oui, c'est en effet une relecture de Hamlet tout à fait proustienne, hein, d'une certaine façon. Mais alors, est-ce qu'il y a eu des... des intermédiaires ou des intercesseurs ou des médiateurs plutôt auprès de Proust qui lui ont permis d'appréhender un peu la culture anglo-saxonne ou américaine? Est-ce qu'il y a des noms qu'on peut, des gens qui ont joué un rôle?
Plusieurs, oui. Je pense notamment à Robert Dumière, qui était le traducteur de Kipling en français, et qui était un ami de Proust, qui lui conseillait des lectures des Victoriens. Il y a aussi l'important travail de pratiquement des diplomates littéraires ou artistiques que représente Jacques-Émile Blanche, le portraitiste Proust, qui a vécu à Londres et qui a fait également les portraits des grands romanciers, grands écrivains, dont Thomas Hardy. Et Jacques-Émile Blanche aurait conseillé à Proust tel livre, tel autre livre. Son ami Robert de Billy, diplomate aussi, lisait en anglais et conseillait des livres. C'est lui qui avait conseillé notamment Thomas Hardy. Oui.
Et l'intérêt de Proust pour le roman, j'allais dire le roman-roman, tel que justement Hardy ou Eliot l'incarne, l'intéressait, lui plaisait. Il a pris plaisir à ses auteurs.
Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Et il admirait. Ben, quand vous dites le roman, il a admiré aussi la construction du roman chez Thomas Hardy. Il disait, il sentait que Thomas Hardy était de formation architecte et qui construisait ses livres. Il dit comme un tailleur de pierre. C'est une construction, ce qui lui donne l'image du roman comme cathédrale.
Voilà. Oui, là, on revient à un motif fondamental.
Tout à fait. Inspiré aussi par Ruskin, pour qui, évidemment, la cathédrale, c'est le livre avec le L majuscule, la Bible, qui est historiée.
On revient sur l'architecture.
Oui.
Et alors, est-ce que du côté des dadaïstes, est-ce qu'il y a une présence de Proust ou est-ce que ces deux mondes...
Moi, j'ai l'impression qu'on se méfie, en fait. Ouais. Les Bretons, hein, c'est assez drôle. Bretons, comme pas mal de dadaïstes, et plus tard de surréalistes, ont une passion, je dirais, secrète, en fait, pour Proust. Et osent à peine,
l'avouer.
Ce qui est assez drôle, lorsqu'on sait que c'est quand même Breton qui va... engagé par la NRF, mettre au propre les manuscrits de Proust.
C'est Breton qui,
ouais, c'est ça
qui joue ce rôle.
Voilà, c'est on a la rencontre en fait de deux.
Il y a donc un pont.
Oui, voilà, un pont de plus vers la modernité en somme.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est aussi bien, enfin, un peu toute l'ambiguïté de la position de Proust dans cette époque, hein, d'être à la fois en provenance du 19e siècle et en même temps un aventurier du 20e siècle. Plus on le lit, plus on s'aperçoit que c'est, enfin, à mon avis personnel, foncièrement un écrivain du 20e siècle. Mais on ne peut pas évidemment sous-estimer une espèce de substance d'origine qui appartient au 19e.
C'est le voyageur du temps par excellence.
Oui, exactement. Oui.
Pour reprendre.
Oui. Il était aussi lecteur de H.G. Wells.
Pardon ?
Il était également lecteur de H.G. Wells, comme vous avez cité le titre.
Oui. La correspondance de Proust avec Marie Nordlinger, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, l'a aidé à traduire Ruskin. C'est une impression de lecture que j'ai eue, mais assez forte quand j'ai lu sous la forme d'un petit volume qui n'a pas beaucoup eu beaucoup d'exemplaires, édité, je crois, par les Marine Nordlinger elle-même. Enfin, j'ai pas les références exactes là, et peu importe. Mais j'étais frappé de voir que Proust. Au fond, le Proust épistolier avec cette dame, avec Marine Nordlinger, c'est un Proust. Ce n'est pas un Proust mondain qui fait la roue comme il fait très si souvent avec ses interlocuteurs, avec un luxe d'effets, de fausses contradictions, tout ça. Bon, là, c'est plutôt une correspondance de travail, des choses assez précises, et donc. On a tout à coup l'impression, une perception relativement inhabituelle. Est-ce que j'exagère ou...
Je dois dire, je ne connais pas ce volume des lettres, et je veux bien. Je pense bien que effectivement c'est une correspondance de travail, et justement ce volume de lettres avec un seul correspondant me paraît très intéressant et Parce que la correspondance de Proust est très longue. Il y a 21 volumes de correspondance. Oui. Et comme nous sommes ici en train de penser à Proust vu d'Amérique, je rends hommage à Philip Codd, l'universitaire américain, qui a fait toute cette édition. C'était c'est le vrai. Travail de toute sa vie. Il a commencé dans les années 50 et c'est lui qui a le premier à savoir transcrire l'écriture de Proust et qui a fait toute cette transcription. Mmh. Et c'est une édition extrêmement érudite, tout est expliqué. Alors, si je reviens là-dessus, c'est parce qu'en fait, on n'a pas la voix de Proust par rapport à un seul correspondant, parce que c'est classé par ordre chronologique. Donc, j'ai pu lire une lettre de Marie Dondlinger et celle d'après serait 150 pages plus tard. Donc, je n'ai pas eu le privilège d'entendre la voix comme vous l'avez entendu.
Oui, ça m'a. Mais une impression de lecture, je ne sais pas du tout si on peut la confirmer. Mais
il faudrait rassembler les lettres et les lire d'un trait, oui.
Mais vous avez raison, effectivement, de souligner, de rappeler le rôle de Philip Kolb. Après tout, effectivement, c'est un Américain qui a...
Absolument, oui.
Qui a permis aux Français d'avoir accès à cette correspondance fleuve.
Oui.
Et qui, d'ailleurs, est extraordinaire.
Oui.
Pas. Alors, il y a aussi un autre aspect... de lien de Proust avec l'Amérique, c'est l'argent. Mm. L'activité boursière, le boursicotage, comme on dit en français, où il était quand même assez bon. C'est un sport qu'il a pratiqué. Quand même, hein.
Il était très bien conseillé par son ami Lionel Hauser aussi.
Oui.
Pour la bourse, oui.
Oui. Américain.
Oui.
Est-ce qu'on sait des choses sur ce monsieur, justement ?
On sait. Moi non, mais oui. Il
a peut-être été finalement assez proche de Proust, en définitive,
oui.
Par ce biais-là.
Oui,
du tout un biais littéraire, mais un biais financier.
Tout à fait,
complètement. Les affaires.
Oui, tout à fait.
Les affaires.
Oui. La bourse, oui.
Le moment est venu de clore. Vous avez le loisir, si l'envie vous en saisit, de vous procurer le numéro là. Et en tout cas, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bonne lecture.